Ici, l'enregistrement étant manquant, l'administration du site le complète à l'aide des notes de Gérard Granel. Cette ultime question, pour une pensée de son assurance phénoménologique dans et à partir d'une expérience fondamentale, est d'autant plus troublante qu'elle se trouve littéralement renversée dans l'autre texte qui traite de la même difficulté.
Le texte de la lettre à Ernst Jünger, intitulé « De linea », et qui fut surtitré par la suite éditorialement comme « Zur Seinsfrage », que vous trouverez dans « Contribution à la question de l'être », une question 1. Ici, en effet, ce sont les expériences fondamentales qui sont précédées par une lumière sur la façon dont l'étant est. Je vous lis, c'est page 204. Votre ouvrage « Le Travailleur », 1932, Karl Breiter, a entrepris la description du nihilisme européen dans la phase qui a suivi la Première Guerre mondiale. Il est le développement de votre essai sur la mobilisation totale, du total mobile, Machung, 1930, précédé par Stahlgewitton, les orages d'acier. Le travailleur appartient à la phase du nihilisme actif, Nietzsche.
L'enregistrement de la lecture par Gérard Granel de Delaligne étant ici endommagé, l'administration du site Gérard Granel la complète. L'action de cet ouvrage consistait, et consiste encore sous une forme modifiée de sa fonction, en ce qu'il rend visible le total caractère de travail de tout réel à partir de la figure du travailleur. C'est ainsi que le nihilisme, au début seulement européen, apparaît dans sa tendance planétaire.
Cependant, il n'y a pas de description qui, en elle-même, soit capable de montrer le réel en lui-même. Toute description se meut à sa manière propre, et cela d'autant plus sûrement que sa démarche est plus stricte, dans un horizon déterminé. La façon de voir et l'horizon, vous dites l'optique, sont pour la représentation humaine le résultat des expériences fondamentales qu'elle a faites de l'étant en totalité. Paragraphe 45-55. Or, ce qui précède celle-ci, c'est-à-dire donc ce qui précède ces expériences fondamentales qu'elle a faites de l'étant en totalité, or, ce qui précède celle-ci, c'est une lumière qui ne se fait jamais par l'homme sur la façon dont l'étant est. L'expérience fondamentale qui fait toute l'armature de votre représentation et de votre exposition grandit dans les grands engagements de matériel de la Première Guerre mondiale. Mais l'étant en totalité se montre à vous dans la lumière et dans l'ombre de la métaphysique de la volonté de puissance que Nietzsche déploie sous la forme d'une doctrine des malins. Où nous voici donc emportés? Non seulement semble-t-il loin de Marx, sur un terrain qui appartient à une autre pensée et sur lequel on ne voit pas clairement, pour ne pas dire presque pas du tout, comment la sienne pourrait s'établir, mais encore sur le terrain d'une pensée qui semble peu sûre, puisqu'elle tourne en rond entre expérience et pensée, précisément sur le point de savoir où et comment s'assurer. Voici les réponses. Bon, je vous prie d'excuser le côté un peu évariste gallois, c'est-à-dire ne pas le temps de démontrer. Voici les réponses. Premièrement, l'expérience fondamentale de l'objet à ouvrir pour Marx, c'est-à-dire de la production définie comme production de la richesse, à l'époque où celle-ci accomplit son idée sous la forme capitale, forme sous laquelle elle détermine désormais rien de moins que le monde, cette expérience fondamentale est l'apparition de l'étang comme marchandise. Le commencement, la première phrase de Das Kapital, condense cette expérience fondamentale dans une formule qui se trouvait déjà au mot près au commencement de la contribution à la critique de l'économie politique. Cette fois 277 dans Pléiade 1, livre 1er du Capital, première section, le Capital général, chapitre 1er, la marchandise, et la première phrase dit « La richesse bourgeoise apparaît. De prime abord, cette fois c'est pas forme d'apparition, c'est ce qui se montre dans l'expérience. ensemble en mettant ce monde en totalité dans l'expérience fondamentale, la richesse bourgeoise apparaît de prime abord comme un immense entassement de marchandises. Et chaque marchandise comme la forme élémentaire de cette richesse. Toute marchandise se présente toutefois sous le double aspect de valeur d'usage et de valeur d'échange. On est déjà là, dans l'année passée de l'expérience fondamentale à l'analyse par cette dernière phrase. Le commencement de la critique de l'économie politique disait, enfin, au mot près la même chose, mais elle disait exactement la richesse des sociétés est une immense accumulation de marchandises. Comment la marchandise peut-elle annoncer le monde? Cela remonte en vérité bien avant la contribution jusqu'au manuscrit 1844. En elle, se révèle, en elle, c'est-à-dire dans la marchandise, se révèlent en effet deux choses, ou plutôt deux aspects de la façon dont sont toutes choses. Premièrement, toute chose est un produit. En 1844, l'exemple pris est celui de la nature, définie dans son essence moderne comme un produit du commerce, sur l'exemple du cerisier qui fleurit dans les jardins anglais mais qui est importé de Chine. Deuxièmement, je suis longtemps étendu là-dessus, on ne va pas attendre lire tous les manuscrits 44, ça va démontrer que toute chose, la nature même, apparaît comme un produit dans la marchandise. Deuxièmement, toute chose est non seulement un produit en général, mais le produit d'une production universelle, c'est-à-dire dans laquelle l'homme exprime sa vie générique, ou plutôt exprimerait sa vie générique, si l'esprit de cette production, la richesse, ne venait aliéner cette possibilité, la lui retirer toujours déjà. Cette expérience fondamentale ne variera jamais. Mais elle a encore, en 1844, besoin d'une maturation. Il sera terminé, pour autant qu'elle le soit, qu'en 1872, c'est-à-dire lorsque rayonnera pleinement cette autre lumière sur la façon dont l'étang est, qui est pour Marx la lumière de la pensée de la forme capitale. Certes, les deux aspects, celui de l'expérience de fond et celui de la pensée de l'être, sont déjà là dans les manuscrits de 1844, dont le titre lui-même porte trace de cette dualité, qui est déjà un entrelacement économie politique et philosophie. Le capital en particulier est déjà là, sous la forme de la question du salaire. Mais le titre montre aussi que le capital n'est encore pensé que dans l'horizon de l'économie politique. Donc comme une simple matière ou masse économique, comme richesse, et non encore comme esprit de la richesse, comme capital forme. C'est aussi pourquoi la marchandise, si elle prive déjà l'homme de la manifestation de son être, n'en est pas encore venue à déterminer l'homme dans son être même, comme marchandise. Ni par conséquent à penser la production comme des marchandises produites par des marchandises, pour reprendre l'expression célèbre de Sraffa. Pour que la pensée présente comme le Vorsicht et l'expérience fondamentale puissent se comporter pleinement l'une l'autre, il faut attendre que la Vorrabe fasse elle-même des progrès. La deuxième réponse est donc la réponse à la question « Qu'est-ce que la Vorrabe dans la situation herméneutique de la pensée de Marx ?» La voici. La première caractérisation phénoménale de l'étang thématique, car c'est ça la Vorrabe, c'est porter l'étang thématique à une première caractérisation phénoménale de l'étang thématique, à vrai dire, les suivantes aussi. Ils seront toujours de nouvelles premières caractérisations phénoménales, en ce sens au moins que la description phénoménologique de l'étang dont il est fait une expérience fondamentale n'est jamais une caractérisation ultime. dans laquelle, s'élevant à la science, longtemps phénoménologique s'approprierait son étant thématique en le faisant tomber dans son avoir, en sorte que le rabe ne cessera jamais d'avoir la forme d'un faux rabe, d'une faux rabe. Cette première caractérisation phénoménale, donc, est cette analyse que Marx, tout de suite après avoir sobrement fait signe dans les lignes d'ouverture que nous venons de citer, mentionne comme constituant son point de départ. La richesse bourgeoise apparaît de prime abord comme un immense amassement de marchandises, ça c'est l'ouverture, l'objet de l'expérience fondamentale, et chaque marchandise comme la forme élémentaire de cette richesse. En mon analyse, il n'est pas là, il est dans l'autre texte symétrique, celui de la contribution, critique de l'économie politique, 1859, du capital, capital en général, la marchandise, sur le même titre. La richesse bourgeoise apparaît, de prime abord, comme un immense entassement de marchandises, et chaque marchandise comme la forme élémentaire de cette richesse. Toute marchandise se présente toutefois sous le double aspect de valeur d'usage et de valeur d'échange. Alors cette analyse, donc, et moi je ne trouve pas le passage, ça ne fait rien, cette analyse est donc le point de départ, et la forme comme point de départ, en tant qu'elle est l'analyse précisément de l'état qui est livré par l'expérience fondamentale, c'est-à-dire l'analyse de la marchandise. C'est la marchandise, en effet, qui contient in nuce l'ensemble de ses formes, dont nous avons déjà épelé la série, et c'est pourquoi la réflexion d'ensemble sur le caractère fétiche de la marchandise reconnaîtra dans ses formes les formes qui impriment au produit du travail le cachet de marchandise. Maintenant, quel est le cœur de la caractérisation phénoménale de la marchandise? C'est ce que Marx reconnaît comme le double caractère du travail présenté par la marchandise. Valeur d'usage, qui était la deuxième sous-division du chapitre premier. Ce double caractère du travail présenté par la marchandise, c'est comme vous le savez, valeur d'usage et valeur d'échange. D'être à la fois valeur d'usage et valeur d'échange. Dualité qui, sous l'impulsion de l'esprit de la richesse accompli dans le capital, car les marchandises sont depuis le début en sous-main, ou plutôt dans la prudence de la prévision, non pas n'importe quelle marchandise, mais les marchandises du capital, se développera sous nos yeux comme l'éreintement de l'usage dans et par l'échange. Alors il est bien entendu impossible de parcourir ici détail après détail la façon dont toutes les formes sont des formes qui parcourent la logique d'un tel éreintement de l'usage dans et par l'échange. Mais ceux qui sont familiers du livre 1 et en particulier de la première section de Das Kapital voient bien ce que je veux dire quand je dis que ce qui se développe ainsi, c'est l'éreintement de l'usage dans et par l'échange. C'est-à-dire que le travail perd son caractère d'usage et sous tous les aspects et au profit d'un devenir simplement producteur de la valeur d'échange, trajet dans lequel il devient, si je puis dire, formel dans sa substance même. Il perd toutes ses déterminations ontologiques matérielles pour devenir la pure matière plastique, matière formelle de la force de travail, je dirais taliable et corvéable à merci, et qui en elle-même est toujours la même et fournit enfin l'unité, source de la commensurabilité, et qui permet que les marchandises s'échangent à leur valeur, et dans les formes de cet échange, accouchent de l'argent, d'abord comme monnaie, puis dans le développement des différentes formes de la monnaie, finissent par autonomiser l'argent, dans la forme capitale, l'argent lui-même dans la forme capitale. Mais ici nous sommes déjà au moment où le développement conceptuel, par conséquent, ou plus exactement le développement, le développement de la caractérisation phénoménale comme conceptualité des formes, rejoint ce qui l'anime en sous-main, c'est-à-dire la Vorsicht elle-même. Car c'est précisément dans ce mouvement que mûrit ce qui était déjà vu, vorgesehen, et cependant simplement entrevu dans la Vorsicht, c'est-à-dire la forme capitale elle-même. Qu'est-ce que c'est que la forme capitale elle-même? C'est la forme capitale comme le plus, ou plutôt comme le perpétuel retour de l'ombre plus, et comme l'infini, ou le sans limite. C'est-à-dire que c'est, dans la forme capitale, ce qui accède, le substrat, la substance vraie, le rapport essentiel, qui ici accède à sa plénitude, dans laquelle elle forme notre monde. Il forme notre monde. C'est ce que Marx appelle d'un mot terrifiant, la substance automatique. Et la substance automatique, c'est aussi bien le formel vide comme tel. La circulation et la multiplication infinie du formel vide comme tel faisant retour en lui-même, et se rejetant dans la circulation sous le vêtement des marchandises. Dans cette caractérisation purement ontologique, en un sens, de notre monde, c'est-à-dire du monde de la société en tant que corps productif, à l'âge de la forme capitale, comme des sociétés où tout est déterminé par l'éternel retour en soi et l'éternel relancement hors de soi, pour un nouveau retour en soi, du formel même, de l'infini même, en tant que substance, et c'est ce, tout simplement ce que Marx appelle lui, la formule générale du capital. C'est donc par là que je terminerai ce qui, bien entendu, n'est que l'esquisse d'une lecture possible de Marx, prétendre à être davantage en si peu de temps. Longue lecture peut-être, mais essentielle, parce qu'il s'agit là vraiment du lieu et de la formule. La formule générale, c'est vraiment le lieu et la formule pour nous, encore aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui en est dit? Il faut lui relire tout, de la page 695 à la page 698, c'est peut-être beaucoup. Prenons en cours de route l'opposition traditionnelle de toutes ces pages, celle de la circulation MAM, marchandise, argent, marchandise, donc la circulation qui est encore déterminée par la valeur d'usage et qui est essentiellement une circulation finie, un système de la finitude, dans son opposition à la circulation AMA, argent, marchandise, argent, et qui, elle, est au contraire le germe de la capitale. Dans la circulation MAM, la dépense de l'argent n'a donc rien de commun avec son retour. C'est tout le contraire dans la circulation AMA. Là, si l'argent ne reflue pas, l'opération est manquée. Le mouvement est interrompu ou inachevé parce que sa seconde phase, c'est-à-dire la vente qui complète l'achat, fait défaut. Le cercle MAM a pour point initial une marchandise et pour point final une autre marchandise. Il ne circule plus et tombe dans la consommation. La satisfaction d'un besoin, une valeur d'usage, tel est donc son but définitif. Le cercle AMA, au contraire, a pour point de départ l'argent et y revient. Son motif, son but déterminant, est donc la valeur d'échange. Vous trouvez les deux caractères du travail, dont l'antagonisme ici, qui se traduit par la victoire de la formule infinitiste sur la formule finitiste, dont l'antagonisme ici révèle son secret et devient le moteur du monde. Dans la circulation, ce qui d'ailleurs est un apparent et peut-être un essentiel, en effet, non-sens, cette circulation infinie de l'argent dans son éloignement soi-même sous l'aspect de la marchandise, mais je dis bien simplement sous l'aspect, car ça n'est que très apparemment. production capitaliste moderne produit des marchandises. En réalité, ce qu'elle produit dans les marchandises, c'est la possibilité du retour de l'argent, d'un plus d'argent. Le retour du plus comme argent, de l'argent comme plus. C'est-à-dire que c'est le capital même qui se produit. La production n'est pas une production de marchandises dans laquelle simplement s'investit le capital. Il est une production de marchandises investie par la logique du capital. C'est pas du tout la même chose. Le capital ne s'investit pas, il investit. Ce n'est que très apparemment qu'il s'investit. En tant que forme de logique, il envahit et finit par absorber totalement toute la production. Dans la circulation simple, il s'agit de circulation simple parce que nous ne nous occuperons pas encore des formes complexes, celles-ci, il faudrait également les prendre en vue la belle perspective, c'est-à-dire la formation des prix, le profit, le taux de profit, etc. On en reste à la circulation au sens du vin. Dans la circulation simple, les deux extrêmes ont la même forme économique. Ils sont tous deux marchandises. Ils sont aussi des marchandises de même valeur. Mais ils sont en même temps des valeurs d'usage, de qualité différente. Par exemple, froment et habit. Le mouvement aboutit à l'échange des produits, à la permutation des matières diverses dans lesquelles se manifeste le travail social. La circulation AMA, au contraire, paraît vide de sens, au premier coup d'œil. Et elle le sera finalement en ultime analyse également, ou plus exactement, son sens apparaîtra comme le vide même au mouvement. Elle ne sera pas absolument vide de sens, elle aura le vide pour sens. Et donc, la circulation AMA, au contraire, paraît vide de sens au premier coup d'œil parce qu'elle est tautologique. Les deux extrêmes ont la même forme économique, ils sont tous deux argent. Ils ne se distinguent point qualitativement comme valeur d'usage, car l'argent est l'aspect transformé des marchandises dans lequel leurs valeurs d'usage particulières sont éteintes. C'est l'ultime de ce que j'ai appelé l'exténuation ou l'épuisement de la valeur d'usage dans l'épargne, la valeur d'échange. Échanger 100 livres contre du coton et de nouveau le même coton contre 100 livres. C'est-à-dire échanger par un détour argent contre argent, idem contre idem, une telle opération sans vous distinguer. Une somme d'argent, en tant qu'elle représente de la valeur, ne peut se distinguer d'une autre somme que par sa quantité. Le mouvement AMA ne tire sa raison d'être d'aucune différence qualitative de ces extrêmes, car ils sont argent tous deux, mais seulement dans leur différence quantitative. Finalement, il est soustrait à la circulation plus d'argent qu'il n'y a été jeté. Le coton acheté 100 livres est revendu 100 plus 10 ou 100 livres. La forme complète de ce mouvement est donc AMA prime, dans lequel A prime égale A plus delta. C'est-à-dire égal à la somme primitivement avancée plus un excédent. C'est pas quelque chose strictement pris au sens du différentiel. Mais pour indiquer une quantité quelconque supplémentaire. Cet excédent ou ce surcroît, je l'appelle plus-value. En anglais, surplus-value. Le renouvellement, et enfin c'est toutes les formules générales, le renouvellement ou la répétition de la vente de marchandises pour l'achat d'autres marchandises rencontre en dehors de la circulation une limite dans la consommation, dans la satisfaction de besoins déterminés. Dans l'achat pour la vente, au contraire, le commencement et la fin sont une seule et même chose. Argent, valeur d'échange. Et cette identité même de ces deux extrêmes fait que le mouvement n'a pas de fin. Nous sommes au cercle. Il est vrai que A est devenu A plus delta A, que nous avons 100 plus 10 livres au lieu de 100. Mais sous le rapport de la qualité, 110 livres sont la même chose que 100 livres, c'est-à-dire argent. Et sous le rapport de la quantité, la première somme n'est qu'une valeur limitée, aussi bien que la seconde. Si les 100 livres sont dépensés comme argent, elles changent aussitôt de rôle et cessent de fonctionner comme capital. Si elles sont dérobées à la circulation, elles se pétrifient sous forme de trésor et ne grossiront pas d'un liard quand elles dormiraient là jusqu'au jugement dernier. Une fois que l'augmentation de la valeur forme donc le but final des mouvements, ce qui est au départ, Sans divinir ressent le même besoin de s'accroître que sans livre, toute quantité donnée est pénétrée par l'infinité du besoin d'accroissement. En sorte que la conclusion est que la circulation simple, vendre pour acheter, ne sert que de moyen d'atteindre un but situé en dehors d'elle-même, c'est-à-dire l'appropriation de valeurs d'usage, de choses propres à satisfaire des besoins déterminés, tandis que la circulation de l'argent comme capital possède au contraire son but en elle-même. Car ce n'est que par ce mouvement toujours renouvelé que la valeur continue à se faire valoir. Le mouvement du capital n'a donc pas de limites. Et c'est parce qu'il est arrivé à fonctionner réellement comme cet automatisme, ce mouvement à partir de soi, et de soi seul, comme mouvement en soi, de soi vers soi, que ceci, ce fut ce sodos, que le capital, effectivement, fait monde, dévore d'abord toutes les formes et toutes les branches de la production, et se soumet toutes les modalités du travail à sa flexibilité, par exemple. Autant qu'il le faut, partout où il le faut, afin simplement que cette espèce de cerceau vivant, de sphère divine automatique, de Dieu qui est une pure forme, et la forme d'un vide, continue à tourner sur soi-même, et même sans. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans la mesure où toutes les sociétés sont des temps productifs, c'est finalement le capital qui transforme tout étant et tout rapport à l'étant à l'intérieur de nos sociétés en un rapport à des marchandises. Je veux dire, par exemple, que la nature n'est plus qu'espace vert, ou que support de l'agroalimentaire, ou que l'habité n'est plus que construction marché du logement, que la beauté du monde, sa pureté première, respirable, vivable, n'est plus que site touristique, aménagement touristique, etc., 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 y compris peut-être que la culture elle-même n'est plus que le sous-produit de l'adaptation d'une dépense de force intellectuelle au besoin de l'appareil. Et c'est peut-être dans ce mouvement, c'est sûrement dans ce mouvement, qui est en marche, entre autres choses. La Verwandlung, la métamorphose de l'université. On n'en finirait pas de montrer quelles sont les façons dont la forme capitale fait monde. Je m'arrêterai donc là, non sans indiquer simplement que ce qu'il faudrait développer ici, c'est justement le caractère de cette forme d'être purement le sens même de ce qui est vide de sens, d'avoir pour sens le vide. Et en quel sens cette formalité consonne avec ce qui consonne exactement et même réalise historiquement ce que Heidegger appelle l'essence de la technique moderne. Si on pense l'union ou l'identité profonde du capital et de l'essence de la technique moderne, alors on se rendra peut-être compte que il faut honorer Marx, non seulement parce qu'il faut honorer ses mères, mais parce que cette pensée nous attend bel et bien dans l'avenir. Merci bien. Votre patience.
Avertissement de l'administration du site Gérard Granel. L'enregistrement est ici manquant ou endommagé. Les questions de l'auditoire qui vont suivre ne sont pas toujours audibles, à la différence des réponses que Gérard Granel leur apporte et qui sont pour l'essentiel intelligibles par elles seules.
Oui, vous faisiez allusion au début au fait qu'aujourd'hui le marxisme était considéré comme un chien crevé, et c'est attristant de voir les fonctionnaires de la pensée, ceux qui ont pour tâche de surveiller l'enseignement de la philosophie, par exemple, ne font que suivre les modes vieux d'essayer de ne résister. Par exemple, on voit Marx complètement disparaître des annales du baccalauréat, alors qu'il y a 10 années, c'était tout différent. Donc, au lieu d'impulser un peu le mouvement, ils ne font que courir après. Et on le voit également disparaître des textes officiels, par exemple, des auteurs à choisir, par exemple, pour la formation des maîtres. Bon. Et d'autre part, alors, une autre question que je voulais poser, différente, qui concerne le contenu, donc votre exposé. Et comment situer d'autres sens du terme forme? Par exemple, vous avez fait allusion à Aristote. Par exemple, le texte du Capital où il est dit que l'ingénieur le plus mal habile se représente le résultat de son travail avant de le réaliser. C'est peut-être à rapprocher de la cause formelle d'Aristote. Et comment situer alors ce sens du mot forme par rapport à ce que vous avez développé? Et puis également, forme au sens de formation sociale, c'est-à-dire ensemble de relations. Par exemple, une formation sociale comprend plusieurs modes de production. Chaque mode de production, c'est un effet de rapport de production. Et alors, la formation sociale, c'est un rapport de rapport, un rapport entre plusieurs modes de production. Alors, comment situer ces deux sens du mot forme? Forme au sens de formation sociale, ensemble de relations, et forme au sens de cause formelle.
Comment se fait-il qu'un auteur de l'importance de la taille et de la qualité philosophique de Marx apparaisse un beau jour dans les programmes et dans les enseignements, parfois devient même envahissant, il a pu l'être, mais dans une version qui est une koiné, qui est une vulgate marxiste dans les années, par exemple, 60-70, et puis tout d'un coup disparaisse. Votre question, c'était que font les fonctionnaires de la poussée? La réponse est dans la question. Si vous les appelez des fonctionnaires de la pensée, ils pensent comme des fonctionnaires. Il faut espérer que le philosophe n'est pas un fonctionnaire de la pensée. Oui, absolument. Non, il est certain que cela tient aussi. D'abord, ça n'est qu'une mode et on peut réagir contre. Qu'est-ce que je viens de faire? Si ce n'est de répliquer aux gens qui d'abord ont distingué à Raymond Aron le marxisme réel des marxismes imaginaires, c'est-à-dire les marxistes de ceux qui étaient Marx. Puis ensuite, à la vague, nouveaux philosophes, etc., qui ont fini par décréter benoîtement, c'est le cas de le dire, que le grand barbu était mort. Tout simplement en invoquant Darius, en disant attention, Marx revient. Seulement, il ne revient pas n'importe comment. Du moins, si il doit effectivement revenir selon les voies que j'essaye de tracer avec, croyez-le, beaucoup de modestie, il revient selon une modalité de la lecture qui était recouverte par le marxisme même. Car quelque chose nous a éloigné de Marx, qui n'est pas simplement, si vous voulez, l'ensemble des réalités à l'horizon desquelles il était invoqué, c'est-à-dire, par exemple, le stalinisme, le goulag, etc. Ou bref, tous les exemples de langue de bois et de pratique de fer. On peut ajouter la langue de cuir, la version trotskiste, et puis finalement, la langue de caoutchouc, les versions ultra-gauches, jusqu'à ce qu'en fin de compte, la libidinale vienne remplacer la sociale comme objet de nos lois, de nos vivas. Si tout cela s'est produit, c'est parce qu'en un sens, la pensée de Marx contenait en elle-même le développement d'après le dogmatique qu'elle a connu. Et dès le moment où Engels a mis les choses en main, jusqu'à Staline en passant par Plekhanov, Lénine et quelques autres, à la seule exception de Gramsci. Et alors, il faudrait se demander pourquoi. C'est ce qui me paraît l'évidence, c'est-à-dire cette pensée des formes, et son double caractère ontologique et phénoménologique, c'est-à-dire en fin de compte sa précarité et le fait qu'elle soit confiée autour d'écriture, tout cela était insoupçonné parce qu'en un sens insoupçonnable, ça concerne la texture du texte, pas la thèse du texte. Le texte chez Marx recouvre sa texture par sa thèse. Il est lui-même, en un sens, le père de cette postérité, je dirais par le versant le plus voyant, presque par toute la surface thématique, toxique, affirmative de son travail. Et même sur la constatation de la vie, de quelqu'un comme Gilles d'Ostaler, par exemple, et de l'équipe de l'intervention de l'économie politique pour que l'on s'aperçoive que le concept de valeur au livre du Capital était un concept philosophique et qu'il ne fallait pas lire le livre 3 et comprendre le concept de valeur quand on lisait le livre 1, je veux dire, à la lumière du concept de valeur dans le livre 3, où en effet, mais pas jusqu'au bout, je crois, néanmoins, où en effet, il apparaît beaucoup plus comme un concept tout simplement ricardien. Alors, la volonté de se faire accréditer comme science par un siècle scientiste, par une fin de siècle scientiste, a coûté très très cher à Marx. C'est pas seulement ce qui est à l'origine de la mutilation de la forme philosophique et des mots philosophiques dans la version française, la disparition pure et simple systématique, ça a eu des conséquences beaucoup plus graves. En un sens, cet idéal de science pèse sur cette ontophénoménologie, mais c'est pas la première fois. L'idéal de la scientificité est rigoureuse pèse aussi sur l'ontophénoménologie husserlienne, par exemple. Il ne fait pas de la même façon. Je crois donc qu'il ne faut pas simplement accuser la médiocrité. Je ne crois pas que ce soit en effet que ce soit le fonctionnaire de la pensée si on dit, qui sont tellement en cause. Je ne crois pas qu'ils aient la puissance de décréter les modes. Ils ont peut-être simplement la faiblesse de les suivre. Ça, oui. Mais je ne crois pas qu'ils aient la puissance de les décréter. Ça. Cette apparition, disparition de la pensée de Marx, c'est aussi un des possibles de son texte, parce que je veux dire. Il y avait d'autres questions. L'une touchait le rapport à Aristote. Alors, le rapport à Aristote, il est multiple, il est beaucoup plus omniprésent chez Marx qu'on le croirait. Il n'y a que certains passages, qui tous d'ailleurs sont des passages de louange absolue d'Aristote par Marx, où cette filiation se déclare. Donc je pense que vous avez raison, on peut la trouver. L'exemple que vous avez pris, mais qui était un exemple enfin, quasi téléologique. Hein. On pourrait simplement le trouver en beaucoup d'endroits. Hein. Parce que l'endroit qui me paraît décisif est celui où, en réalité, sous des apparences contraires, Marx reprend à Aristote le bien fondé de son incompréhension. Et il ne lui reprend pas son incompréhension de la valeur, il en donne une explication sèche, d'ailleurs en effet simplement scientifique, historico-scientifique au sens quasi banal du terme, en disant qu'on ne pouvait pas penser la valeur à l'époque de l'esclavage. Il faut en effet, comme vous savez, la liberté pour que de l'esclave, on passe à l'esclave autonome, si je puis dire, c'est-à-dire au producteur de la richesse moderne. Mais il lui reprend le bien fondé de son incompréhension. On peut en dire qu'en un sens, tout Marx ça consiste à dire la valeur d'usage est un non, la valeur d'échange est le non-sens. Alors bien entendu, on trouve quel est son sens à elle, comment elle est rendue possible, comment elle est en germe dans tout processus marchand, et comment ce germe, tout d'un coup, se développe comme la réalité même, jusqu'à la totalité de la réalité comme monde, lorsque le simple processus marchand n'est plus une partie, non pas de retourner bêtement au grec, mais de réaviver un possible, au-delà de l'organisation de l'impossible, en quoi Marx finalement expose que le capital transforme notre société, ou accomplit nos sociétés plutôt. Non, c'est là qu'il est, à mon avis, au même lieu, en un sens, que Heidegger avec sa question sur le sens de la technique. Mais si c'est vrai, c'est peut-être pourquoi j'ai pu, au moins, à très grands traits, comprendre tout Marx à partir de paragraphe 45 de Zeit. Donc c'est notre Aristote, oui. Mais le nôtre. Ou il annonce notre Aristote, je ne sais pas. Et puis, alors les formations sociales, eh bien, là, je ne vois pas trop où est la question. Il est bien évident que les formes dont j'ai parlé, qui sont les formes, disons, de la circulation simple, qui sont les formes simples en général, et qui sont une sorte d'ontologie formelle, de la phénoménalité la plus élémentaire, celle de la marchandise du capital, avec des tirets, il est évident que cette analyse des fonds est elle-même l'instrument de l'analyse des formations sociales, ça c'est bien certain. C'est là le rapport que j'y vois. Non, moi, je me méfierais beaucoup de la pensée des formations sociales sous un concept comme celui de Gestalt. Pas seulement parce que ce concept, il est d'origine psychologique. On peut le sociologiser. Les sociologues et les psychologues se font ce genre de cadeaux, d'emprunt, d'import-export, terminométhodologique, bien volontiers. Ce qui me gêne, c'est qu'il s'agit là d'une conceptualisation antique, n'est-ce pas ? Marx est le penseur de ce qui s'appelle la lutte des classes et du rapport de production, enfin du mode de production, c'est-à-dire de la... Il est vrai que rapport désigne chez Marx la constitution essentielle d'un domaine. Verhältnis, wesentliche Verhältnis. C'est pas forcément le rapport entre deux choses, si vous voulez. C'est plutôt wie die Sache sich verhält. Verhältnis est plutôt le substantif de cet emploi. De verhalten, dans le réfléchir, sich verhalten, la façon dont la chose même se comporte. Il n'y a que deux formations sociales qui sont par-dessus le marché, l'avers et le revers de la même médaille. C'est le prolétariat, le capital. Et toutes les formations sociales sont à analyser, à comprendre à partir de là. Et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter de tomber dans une erreur à la Boukharine, n'est-ce pas, manuel de sociologie, hein, violemment et justement critiqué, mais il y a quelqu'un qui sait ici ça beaucoup mieux que moi, c'est pour l'avoir traduit, et pour l'avoir surtout explicité, Gramsci, n'est-ce pas. Alors, il y a chez Gramsci une critique de toute conception seulement sociologique, seulement historicisante, seulement psychologisante, seulement ce qu'on veut, hein, des classes, des castes, des formations sociales, par exemple les formations socio-professionnelles, etc. Je crois que la philosophie de Marx a pouvoir, à partir des formes ontologiques, phénoméno-ontologiques dont j'ai parlé, d'analyser tout ce qui vient à se former, toutes les formations que, dans son détail, dans ses différentes provinces, si je puis dire, la société peut se donner, mais en les dissolvant, si vous voulez, et en les ramenant à la forme capital-travail, capital-force de travail plutôt, à la forme capital-force de travail. Et par là, en ayant un caractère très critique et dissolvant à l'égard de tout ce qu'on appelle les sciences sociales, d'abord l'économie politique, mais aussi toute espèce de sociologie, par exemple, de sociométrie, etc. Ce travail est à faire, bien sûr. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Pas, peut-être pas. D'autres ? Maintenant que je suis plein de banderies, vous pouvez y aller. Pardon ? Oui ? Je ne pense pas qu'il y ait un moment où elle ne peut plus fonctionner. Je crois que là aussi, on s'est originairement trompé. En gros, vous voulez dire le moment où ce que j'ai appelé la sphère brillante de la substance automatique qui fait retour sur elle-même en expansion va finir par crever, comme une espèce de ballon. Plouf. Et sur quoi elle va ? Et en heurtant quelle pointe, ou en rencontrant quel mur, ou en franchissant quelle ligne, elle va exploser. Alors, Marx a dit une fois pour toutes qu'il n'avait pas de recette pour faire bouillir les marmites de l'avenir. En particulier, il n'a jamais dit « la situation est révolutionnaire ». Il n'a jamais dit non plus qu'elle ne l'était pas. Il aurait eu plutôt tendance, lorsqu'elle s'est présentée par exemple sous la forme de révolte de la Commune de Paris, à trouver qu'elle ne l'était pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fermé sa gueule et il les a rejoints. Bien ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'il veut montrer, lui, c'est que le système est celui d'une impossibilité. Mais du même coup, cette impossibilité, elle est elle-même, si vous voulez, essentielle et formelle. Elle ne contient pas en soi aucune prédétermination du moment réel et des formes effectives sous lesquelles elle deviendra réellement impossibilité. C'est-à-dire que la situation est tout le temps, mais dans une proportion qu'il est impossible d'analyser tout simplement réellement, révolutionnaire ou révoltante. Alors, il y a effectivement, ça c'est la faiblesse, bienheureuse faiblesse, dont la philosophie paye sa force propre. Le rapport force-faiblesse est aussi complètement inversé dans la philosophie de ce qu'il est dans les sciences. C'est qu'il n'y a pas de prévision du réel possible à partir de la philosophie. La philosophie n'a pas pour tâche de résoudre les énigmes du monde et de dire ce qu'il faut faire. Alors elle semble retourner par là complètement dans l'inutile. Je ne le pense pas, parce que la pensée est déjà une action, parce qu'il n'y a pas de révolution sans théorie, parce qu'il faut encore que cette théorie soit elle-même vraie, et que cela dépend de sa mesure phénoménologique, de sa prudence ontologique et de sa précision conceptuelle. Mais enfin, ce n'est que l'action de la pensée. Et Marx a toujours dit qu'il préférait la critique des armes à l'arme de la critique. Ça n'empêche pas que la critique est une arme. Mais elle n'est pas l'ensemble des armes. Alors, où est la résistance? Elle est où on la fait? Si on la fait bien, et elle fonctionne comme résistance en déchirant le tissu historico-social existant jusqu'à un certain point, cela s'est déjà produit, ces déchirures ont eu leurs cicatrices, mais le tissu continue à avoir mal à ses cicatrices. D'autres coupures se font ailleurs. Mais en réalité, il n'y a pas de correspondance univoque possible entre le fait que le système en marche est l'histoire d'un monde impossible et le moment où les formes réelles sur lesquelles cette impossibilité se réalise elle-même. Pourquoi ? Parce que l'être n'est pas ici un transcendant qui entre en apparition. C'est une des fautes, mais une des fautes dogmatico-scientifiques, métaphysico-scientifiques à la fois de Marx, d'avoir, par exemple, fixé dans le prolétariat comme si c'était une simple réalité le point de résistance. Le prolétariat, ce n'est pas une réalité, c'est une détermination formelle. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de prolétaire. Alors, si votre question vise à un que faire, comme toutes les questions massives et idiotes, comme vous dites gentiment, qui sont les vraies questions, c'est qui sont les questions effectives, si les questions visent à un que faire, alors la réponse est qu'il faut faire, dans la mesure de ce qu'on aperçoit à sa place, dans son... Et c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, Bien sûr. Ah, mais bien entendu. Ah, mais ça, c'est le point de départ. Ça, c'est l'expérience fondamentale. L'expérience fondamentale, elle est ontologique affirmative. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans un texte déjà bien ancien, qui comme souvent ce que j'écris, se termine en queue de poisson sur une vaste interrogation, qui s'appelait, l'ontologie de Marx en 1844, qui est donc une lecture des manuscrits économico-philosophiques, où on voit qu'au contraire, c'est ça l'expérience fondamentale de Marx. C'est la production comme production de la vie générique. Alors, c'est, si vous voulez, toute la charge d'une telle pensée se retrouve ensuite du côté de la valeur d'usage. Et la valeur d'usage est cependant très très modeste, parce que comme c'est le capital qu'on analyse, on analyse les façons dont elle est éreintée par la valeur d'échange et la montée en puissance et par quelles formes et par quelles étapes, etc., de cette valeur d'échange. Donc, il n'y a plus de discours, sauf les formules finales du type de chacun selon ses talents, chacun selon ses besoins, par exemple. Sauf l'opposition de... peut-être nostalgique, apparemment nostalgique, mais je ne crois pas que Marx soit un nostalgique, je crois que c'est un athlétique, un vrai grec, hein, d'une Gemeinschaft, ou d'un Gemeinwesen, d'une communauté, par opposition à la Gesellschaft, à la société. Ou bien encore, la limite cherchée s'exprime, l'autre, le système de valeur s'exprime dans l'idée qu'il faut vergesellschaften die Gesellschaft, socialiser la société. Mais Et sur tous ces thèmes, en effet, il y a peu de développement. Je ne vois guère que chez Jean-Luc Nancy, dans la communauté des œuvrés, et pas essentiellement parce qu'il est in fine question d'un communisme littéraire, très belle idée mais qui peut-être sera mal comprise et risque de recouvrir pour beaucoup le vrai sens du texte, alors c'est une très forte idée, que je ne vois donc que chez Jean-Luc Nancy, dans la communauté des œuvrés, une reprise effective, en fait, de la question de l'être ensemble, enfin comme partage. Maintenant, on ne sait jamais où ça pète. Vous savez, parfois, une petite maille fait tout filer. Parfois, la grosse bête guérit des pires éventrations. C'est tout ce qu'on peut dire. Si c'est tout ce qu'on peut dire, on peut peut-être s'arrêter là. Vous n'avez pas faim ? Bon appétit.